Monsieur le professeur, mesdames, messieurs, l'association Sainte-Garde et le Studium de Notre-Dame de Vie sont très heureux de vous accueillir ce soir. Après 30 ans de travaux de rénovation, ce lieu reprend vie. Depuis sa fondation à la fin du XVIIe siècle, Sainte-Garde a pour vocation d'être un lieu de formation, de ressourcement et d'accueil. C'est pourquoi nous sommes très honorés d'accueillir M. François Tcheng pour cette première rencontre culturelle à Sainte-Garde. Nul mieux que lui aujourd'hui ne peut nous ouvrir à la beauté et au bien, au singulier et à l'universel, au souffle et à la vie. C'est donc avec une extrême reconnaissance, cher monsieur, que nous sommes là ce soir autour de vous. L'un de vos poèmes commence par ces mots. Puisque tout ce qui est de vie se relie, ces mots résonnent profondément en nous. Ils nous disposent à la rencontre. Permettez-moi aussi de remercier les libraires, les bibliothèques et les médias qui ont relayé cette invitation, ainsi que toutes celles et tous ceux qui l'ont rendue possible. Nos remerciements s'adressent en premier lieu à M. Pascal Rioux, professeur et écrivain, ami de M. Tcheng de longue date, qui va animer cette soirée. Je suis heureux de lui céder la parole maintenant.
Bonsoir et merci de votre présence et d'être si nombreux ce soir autour de François Tcheng. Nous voudrions consacrer cette rencontre à quatre grands thèmes que François Tcheng abordera successivement. La question de la poésie. La question à partir d'un passage de son roman « L'éternité n'est pas de trop » du dialogue au plus haut sommet de la spiritualité, de la pensée orientale et du christianisme. La question du féminin et la question de l'âme. La soirée se terminera par une lecture de poèmes inédits que François Tcheng a écrit et qu'il vous dira tout spécialement ce soir. Et nous avons donc choisi de terminer par la parole de poésie et elle seule, c'est-à-dire que la rencontre ne sera pas suivie d'entretien et de questions. Je sais que cela va décevoir un certain nombre d'entre vous, mais il est bon de laisser sans doute la parole poétique résonner en nous, faire son chemin sans que les questions viennent perturber ce trajet du souffle et des mots en l'âme de chacun. Avant de commencer et de bien évidemment céder la parole à François Tcheng, je voudrais simplement rappeler une chose. J'ai eu la joie de rencontrer François Tcheng il y a 30 ans, un peu plus, et nous évoquions ce souvenir commun tout à l'heure. C'était à l'abbaye de Sénanque, à l'époque centre culturel de rencontre entre le départ des frères et leur retour. Et je voudrais ce soir évoquer trois personnes, deux qui sont, je dirais, de l'autre côté du temps, Emmanuel Muheim qui présida le centre culturel et organisé autour d'une personne qui fut centrale pour François et pour moi, le philosophe Henri Maldinet, organisé notamment des séminaires d'Henri Maldinet auxquels François Tcheng fut invité, c'est comme ça que je le rencontrai et découvris son œuvre pour la première fois. Puis la troisième personne qui est Anne Muheim, que l'âge et la maladie empêchent d'être ici, mais qui est par le cœur avec nous ce soir. Voilà, je tenais à rendre hommage et à évoquer ces trois figures et tout le bien qu'ils firent dans l'animation de ce que fut Sénanque pendant ces années-là. Voilà, je n'en dis pas plus. Nous sommes convenus donc avec François que d'abord, il nous parlerait, il vous parlerait de poésie, de l'expérience poétique.
Merci Pascal. Poésie. Je pense que beaucoup d'entre nous pensent que la poésie, c'est un langage par rapport au langage ordinaire, un langage plus enjolivé, plus fleuri ou éventuellement plus lyrique. Alors qu'il s'agit de tout autre chose. La poésie étant à la pointe extrême de notre langage, touche une dimension presque mystique de ce langage qui lui-même est un mystère pour nous. Bien sûr, nous croyons savoir ce qu'est le langage humain, puisque c'est un jouet que nous avons inventé. En réalité, je pense que nous ne sommes pas encore capables de prendre toute la mesure de la réalité de ce langage humain, c'est-à-dire nous ne savons pas jusqu'où ce langage peut nous entraîner. D'une façon générale, nous supposons qu'à l'origine, l'homme possédait une pensée. Et puis après, ils ont inventé un langage pour exprimer cette pensée. En réalité, ça s'était passé autrement. Je n'ai pas de preuves, mais en gros, je pense qu'on accepte cette vision. Nos ancêtres, l'Homo sapiens, ne possédaient pas d'emblée une pensée. Certes, ils possédaient tout un ensemble d'idées très élémentaires, très disparates, d'ordre sensoriel. C'est seulement à mesure que cet homme en question commence à articuler ce langage qu'il a inventé au fur et à mesure, qu'il arrive à structurer ses idées en une pensée. Ce qui se passe, ce qui s'était passé chez l'Homo sapiens, se passe pour chacun de nous. Après notre venue au monde, cet enfant, c'est seulement au fur et à mesure qu'il apprend une langue, qu'il devient un être de pensée. La preuve, on connaissait des cas, des enfants sauvages élevés par des loups dans la forêt. Dépassé un certain âge, 7 ou 8 ans, cet être n'est plus capable, n'a pas de structure mentale qui lui permet d'apprendre une langue. Et par là, il ne possède pas de pensée. Il reste encore cet être peut-être habité par, comme certains animaux intelligents, par un ensemble de réactions, d'idées, d'ordre sensoriel, je le répète. Donc, entre la pensée et le langage, il y a comme un jeu dialectique extraordinaire dont nous le pouvons prévoir l'envergure et le terme. Et avec l'invention de l'écriture, notre langage entre tout d'un coup dans une complexité extraordinaire. L'écriture n'est pas une simple transcription de la langue ordinaire. L'écriture, par sa construction interne, va beaucoup plus loin que notre pensée consciente ou nos idées explicites. Tous ceux, les écrivains ou même un homme ordinaire qui tient un journal, sait très bien que l'écriture le mène beaucoup plus loin que l'intention initiale. Parce que l'écriture permet d'aller si loin que de toucher cette part secrète de notre âme, cette zone irrévélée de notre être. À partir de là, nous découvrons une chose, que ce langage humain, loin d'être un simple outil de communication, ça l'est bien sûr, mais il est plus que cela. Il devient l'instrument de notre destin. C'est-à-dire ce langage nous transforme en un interlocuteur avec les semblables, bien sûr, c'est ce qui se passe ce soir. Aussi avec l'univers vivant et par-delà, avec une transcendance. Parce que cette transcendance n'a d'autre moyen de dialoguer avec nous qu'à travers notre langage. En somme, nous croyons être l'inventeur de ce langage, en fait, donc pendant longtemps. L'homme pensait qu'avec ce langage, on essaye de analyser ou expliquer le mystère de l'univers. Et voilà qu'il découvre que c'est en ce langage même que réside le mystère de notre destin. J'ai pris beaucoup de temps, vous m'excusez, j'ai presque terminé. Donc la poésie. La poésie, comme je l'ai dit, c'est à la pointe extrême de notre langage. Sinon, en effet, notre langage ordinaire constitue un système clos. Nous tournons autour de nous. Comment ça va? Est-ce que vous vous portez bien? Est-ce qu'il fait beau demain? Alors que la poésie constitue une extraordinaire ouverture. Ouvert vers quoi? Encore une fois, vers quelque chose qui nous dépasse, c'est-à-dire vers la transcendance. J'ajoute encore un mot avant de... Ici déjà, tout à l'heure, vous avez parlé d'un certain thème, je pense qu'on va l'aborder, mais déjà, je le sème ici. Ce que je viens de dire est relié dans le domaine chinois avec l'idée du Tao, la voix, le Tao, la voix, V-O-I-E. Et il se trouve qu'en chinois, le mot Tao, la voix, V-O-I-E, qui signifie la marche, cette gigantesque marche de la vie, et en même temps, Tao veut dire parler. Donc Tao a cette double signification de la voix, la marche, et puis le parler. Et il se trouve qu'en français aussi, par une coïncidence phonique, la voix et la voix, V-O-I-E et V-O-I-X. Et là, déjà, ça nous fait rejoindre cette phrase de Jean, « Au commencement était le Verbe ». Hein, j'anticipe beaucoup, excusez-moi. Donc, je reviens pour le moment à l'idée de la poésie comme possibilité d'ouverture. Et là, je vous donnerai la parole tout de suite, non sans savoir d'abord lire ce... parce qu'il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a demandé, mais comment vous parlez de... le langage poétique, comment vous-même vous ressentez ce... Alors, j'ai à l'époque écrit un poème pour essayer de cerner un peu cette expérience de ce langage poétique tel que moi-même je l'ai vécu. Ces mots qui affirment, qui révèle, et d'autres qui bousculent, qui bouleversent. Une parole donc, la nôtre, trouée d'éclairs, de rafales, de brises, de chuchotis, fondue soudain dans l'infinie résonance où les dires trop humains déchirent ou déchiffrent l'indicible, l'innommé. Ça a l'air de viser très haut, de déchiffrer l'indisciple d'innommé. En réalité, c'est vrai que tout le monde n'est pas poète, mais cette parole qui déchire et déchiffre à la fois et à la portée de tous, parce que chacun est un être unique. Donc chacun est capable de prononcer une parole ou d'autres qui n'a jamais été dit depuis le commencement de l'univers, depuis le commencement de l'invention de la langue, du langage. Donc, mon propos est de dire, un peu comme l'autre Hermon, la poésie en réalité à la portée de tous, hein, et est faite par tous. Donc là, encore un petit poème, et je vous laisse la parole. Dis donc ce qui vient de toi. Dis tout ce qui te soulève au-dessus des contingences. Le monde attend d'être dit et tu ne viens que pour dire. Ce qui est dit t'est donné. Le monde est son mot de passe. Voilà.
Lorsque l'ange fait signe, nous savons que le double royaume est réuni. Le grand vent parcourant de bout en bout toute l'air terrestre. Les paroles d'ici rejoignent enfin l'autre bord. Ce qui est à vivre et ce qui est vécu, ce qui tend vers la joie et ce qui est en souffrance, conjuguent un présent de deuil et d'attente. L'arrêt du temps n'est plus que l'attente transformation. L'eau du fleuve s'évapore en nuages, retombe en pluie, réalimente, invisible, le courant de l'éternel retour. Nous reviennent visages meurtris, voix étranglées que transfigure souffle et sang. L'informulé et l'inaccompli se mêlant à l'inattendu, à l'inespéré, confluant ici, deviennent fontaines de l'instant qui désormais reprend tout, élève tout, inépuisablement jaillissante. Lorsque l'ange fait signe, nous savons que ce qui est né de nous ne cessera plus d'advenir. En avant de nous, à notre insu, soudain nous dépasse, nous sauve. Ce poème, qui est un des derniers du recueil à l'Orient de Tout, nous permet de glisser par la poésie dans le second point de notre rencontre. Et pour rester dans l'écriture et dans l'œuvre de François, je voudrais évoquer ici la fin de son roman « L'éternité n'est pas de trop ». Ceux qui l'ont lu savent qu'il y a un personnage central qui s'appelle Dao Chen, dont l'épreuve scande tout le récit, les épreuves et le destin scandent tout le récit, et qui rencontre un étranger venu de l'Ouest qui n'est autre qu'un père jésuite. Et il y a un dialogue entre eux, qui peut-être se fait sous le signe de l'ange, justement, présent dans ce poème. Et ce dialogue entre eux, je vous en lis quelques-uns des passages. Vous parliez de l'amour. Vous avez dit que celui qui aime vraiment peut dire à la personne aimée, « Tu ne mourras pas. » Je me souviens de l'avoir dit. Eh bien, je l'ai dit une fois, cette parole. Et j'ai ramené à la vie la personne aimée qui était donnée pour morte. C'est vrai? J'y vois la gloire du Seigneur. Vous dites? J'ai dit, c'est grâce à la gloire du Seigneur, car tout ce qui est grand et merveilleux vient de lui. c'est grâce à lui. Il me semble que j'ai réussi la chose grâce au souffle primordial. Un instant d'hésitation et l'étranger répond. Il n'y a pas là forcément contradiction. Mais cela demande un long développement. J'espère sincèrement que l'occasion nous sera donnée d'y revenir. Alors François, est-ce qu'on peut y revenir un petit peu?
Là, je ne suis pas sûr d'en être capable. Peut-être le temps n'est pas encore venu. Essayons. Tout à l'heure, justement, j'ai dit la voix, le Tao, hein, le Tao. Donc, le Tao est une notion centrale de la pensée chinoise, hein, que ce soit du courant confucien ou du courant taoïste. Hein, les deux courants ont pour l'élément commun de se référer au Tao, c'est-à-dire la voix. La voix, donc, j'ai en gros traduit, c'est cette immense marche de la vie. Donc, à partir de l'idée du souffle-esprit, les premiers penseurs chinois ont avancé une conception organique de l'univers vivant. C'est-à-dire, après que ce souffle-esprit a impulsé la marche du Tao, ce même souffle continue à animer toutes les entités vivantes qui composent ce Tao. On est organisé en un immense réseau de vie où tout se relie et se tient. Je crois que le père tout à l'heure a parlé d'un poème, puisque tout se relie, hein, puisque tout ce qui est de vie se relie. Ça, c'est une idée essentielle de la pensée. Donc, tous ces deux courants de pensée qui se réfère à cette idée du Tao, que ce soit taoïste ou confucien, essayent, leur propos donc est toujours d'essayer de trouver cette possibilité de correspondance et éventuellement d'entente entre l'ordre humain et l'ordre céleste, puisque tous les deux ordres font partie de cette marche du Tao. Cette conception de base, je pense que aucun Chinois n'est prêt, cette conception de base est globale. Aucun Chinois, je pense, hein, il y a peut-être des Chinois ici présents, aucun Chinois n'est prêt à l'abandonner, qu'il soit confucien, taoïste, ou qu'il devient bouddhiste, ou qui devient marxiste, athée, ou il devient chrétien, il n'abandonne pas cette idée de base, de cette conception de base. C'est cette conception qui lui permet de se sentir relié à tout. Hein. Alors, dans votre dialogue, il est question entre ce médecin chinois et un étranger qui est venu de l'Occident. Donc, on était au XVIIe siècle. Donc, c'est un des premiers jésuites qui se soit aventuré en Chine. Bien sûr, je ne vais pas m'attarder sur cette histoire, mais je fais vite. Donc, par rapport à la vision de ce jésuite, si le Chinois continue son dialogue avec ce jésuite, il découvrira que chez ce jésuite, il y a une vision globale qui ne vient pas, puisque c'est le jésuite lui-même qui a dit, il n'y a pas forcément contradiction, je crois, hein, Simon. Parce que mon propre roman, ça fait longtemps que je ne l'ai pas relu. Bon, mais en tout cas, voilà, si, en gros, c'est ça. Bien. C'est
parfait.
Tout à fait. Bon. Donc, ce qu'il aura découvert, c'est l'idée de incarnation. Je pense que chez ce jésuite, puisque au lieu de se référer à ce souffle esprit initial ou primordial, encore que chez Saint Jean, on peut encore trouver cette vision. Mais chez ce jésuite, il aura trouvé cette idée de l'incarnation. C'est-à-dire, au lieu, cette idée de chaque être en son unicité, et non pas un être parmi d'autres êtres. Si, on est un être parmi d'autres êtres, mais chacun en son unicité, parce qu'il se réfère justement à un Dieu unique. C'est cette unicité qui se répond, cette idée de unicité qui se répond. Et puis toujours l'idée d'incarnation, c'est-à-dire dans cette relation entre chaque être et son Dieu, toutes les étapes de sa vie, tous les événements majeurs de sa vie sont incarnés. La naissance, l'élan vers une réalisation, l'amour, la souffrance, et puis l'épreuve suprême, la mort, et puis cette recherche d'une ouverture vers la transcendance, et tous ces thèmes-là sont incarné. Je pense que c'est cette différence. Mais encore une fois, l'un ne vient pas abolir l'autre. Et d'ailleurs, c'est ce qui, puisque vous rêverez, donc ce jésuite, par la suite, a rencontré des grands lettrés chinois. Ces lettrés-là sont tous étaient tous des confuciens, des confuciens accomplis, parmi les confuciens les plus accomplis de l'époque. On est au XVIIe, et disons trois d'entre eux se sont convertis au christianisme, et eux aussi, ils n'ont jamais éprouvé un sentiment de trahison ou de reniement. Au contraire, c'est un parce que chez Confucius, il y a déjà cette exigence morale extrême. Mais en la figure du Christ, ils ont découvert une exigence qui atteint le degré absolu. Donc pour eux, je le dis, je me mets à leur place. Donc leur rencontre avec le Christ, c'est une sorte de confucianisme poussé à son degré d'absolu. Pour le moment, peut-être je m'en tiens à ça. Est-ce que ça... au-delà, d'ailleurs, moi, je suis incapable d'en dire plus. Hein.
c'est très bien que l'œuvre nous entraîne, justement, c'est ce que vous disiez, l'écriture, que l'œuvre même nous entraîne au-delà de ce que nous pensions dire elle-même, et que l'œuvre résonne au-delà même de la volonté de l'auteur sur des chemins qu'il n'avait pas forcément prévus, justement, et qui lui reviennent comme ça un soir. Mais voilà. Peut-être juste un mot sur ce dialogue de l'Orient et l'Occident qui nous invite à reprendre aussi la méditation sur la poésie. Ces écritures dont vous parliez tout à l'heure sont fondamentalement différentes. Je me souviens d'un mot, c'était juste après une séance de calligraphie assez longue, d'un mot d'Henri Maldinet disant « N'oubliez jamais qu'un caractère, ça a du caractère.
Répétez.
N'oubliez jamais qu'un caractère, cela a du caractère. » Et il parlait des caractères chinois. À côté de cette écriture pleine de vie, l'écriture occidentale semble, elle, terriblement abstraite. Et pourtant, c'est elle que vous avez choisie.
Et oui, et pourtant, tout à l'heure, j'ai parlé de l'incarnation. Non, je crois que toute langue est géniale. Toute langue. Parce que à travers chaque langue, le locuteur essaye de dire le monde et essaye de dire tout ce qui porte en lui de désirs inexprimables. Et donc, toute langue est toujours géniale. Mais chaque langue avec ses moyens propres. Le caractère. En fait, phoniquement, le chinois n'est pas différent d'une autre langue. Donc, ce qui est spécifique, c'est le caractère. Le caractère est composé de traits. Et là, c'est pourquoi, tout à l'heure, je parle de souffle-esprit et l'idée de l'incarnation. Là, il y a des leçons réciproques à apprendre. Parce que le caractère est composé de traits. Et en traçant les traits, on réalise un caractère. En réalité, et chaque caractère incarnant une manière d'être. Vous voyez, l'homme, ses deux traits, c'est un être qui tient sur ses deux jambes. Et donc, chaque caractère, le zhong, le milieu, c'est un carré traversé par un trait en son milieu. Donc, quand vous tracez le milieu, vous réalisez l'idée du milieu et non pas un son abstrait milieu. Est-ce que je suis clair? Bien. Donc là, au contraire, il y a une leçon d'incarnation. C'est-à-dire, en traçant le trait, vous réalisez l'idée même de la chose. Et donc, le trait devient le trait d'union entre l'âme humaine et l'âme de l'univers vivant. De même, un arbre, c'est un arbre. Vous voyez, c'est un fût avec ses branches. Quand vous tracez l'arbre, vous réalisez cet élan de l'arbre qui, depuis les racines, tend vers le haut. Finalement, est-ce que je dois aller plus loin? Non. Donc, le français incarne les choses autrement, justement par des éléments phoniques. Et donc, il y a une musique inimitable de cette langue que Racine a portée à son point suprême. Et donc, chaque langue est géniale à sa manière et réalise cette mission que chaque langue porte en elle, c'est-à-dire non seulement, je le répète, d'être un simple outil de communication, mais de nous porter aussi loin que possible jusqu'à rejoindre l'origine par laquelle l'univers est advenu.
Alors, il y a, je ne sais pas si c'est l'origine, mais il y a une origine, tout du moins un être qui incarne l'originel, et cet être, c'est la femme. Il y a dans toute l'œuvre de François, et plus encore dans les derniers livres, une méditation sur le féminin, tout à fait particulière, et je voudrais introduire ce moment de notre rencontre en lisant deux textes. Un texte qui est un passage de ce très beau et très étrange livre qui s'appelle « Quand reviennent les âmes errantes », qui est un roman, mais qui est bien plus qu'un roman classique, qui comporte des moments de cœur, qui comporte des moments de pure élégie, et puis un poème d'Alorian de Thou. On verra que dans ce premier texte, en prose mais profondément poétique, la méditation sur le féminin se fait au travers de la souffrance vécue et d'une autre dimension, par contre, dans le poème. Alors même que tout n'est que douleur, j'ai marché droit vers toi. Lors même que tout se révèle trop tard, j'ai marché droit vers toi. Pour un instant encore, je suis avec toi, Jinko. Moi, femme silencieuse, étouffée de souffrance tue. À moi l'audace de dire enfin mes sentiments. Durant mes jeunes années, parce que j'étais sans défense aucune, on m'a prise et possédée. Plus tard, toujours sans défense, j'ai été livré au désir des hommes. Par miracle, je me retrouve ici, délivré. Suis-je pour autant maîtresse de mon destin? Comme j'aimerais répondre oui. Ce que je sais, du moins pour la première fois de ma vie, je me suis donné à un homme, et c'est à toi. Lors même que tout n'est que douleur, lors même que tout se révèle trop tard, ô femme apparemment docile, néanmoins marquée au sceau d'un désir informulé, si infini que plusieurs vies ne suffiront pas pour le sonder. Le temps compte-t-il encore? Ce qui est arrivé avant. Nous croyons le savoir, de fait nous n'en savons rien. De ce qui adviendra après, nous prévoyons tout le tragique, de fait nous n'en savons rien. Il nous reste ce présent. Nous nous y livrons entiers. Bien plus qu'entier, survolté, submergé à l'infini, marée printanière ne s'embarrassant plus de rien, charriant tout, s'emparant de tout, soulevant toute montagne, fouillant toute vallée, ignorant tout obstacle, tout horizon, se mêlant au soleil, à la lune, à tout le souffle qui meut l'univers, hors du monde connu et du temps. Ô mystère, qui sommes-nous? Où sommes-nous? Quelle est cette énigmatique force du désir qui nous ballotte, nous pulvérise? Et vers quel au-delà? Pourtant, nous sommes encore ici, pour un instant encore. Le bref printemps est semé d'orages, toute douceur est déjà douleur, toute tendresse est déjà violence. Pauvres humains au corps rompu, au cœur brisé, le destin humain n'est point fait pour eux. Déjà nos appels désespérés rejoignent le lointain grondement. Ils s'y noient. Qui les entendra? Mais je ne cesserai de parler tant que je serai sur terre. Moi, femme silencieuse, comblée de joie vécue, étouffée de souffrance tue. À moi l'audace de dire mes sentiments. À moi de tout dire. Toi le féminin, ne nous délaisse pas, car tout ce qui n'est pas muet en douceur ne survivra pas. Toi qui survivras, révèle-nous ton mystère que peut-être toi-même tu ignores, sinon le mystère ne serait pas. N'est-ce pas que le printemps est empli d'oiseaux dont l'appel se perd au loin? Que l'été nous écrase de son incandescence dont la senteur nous poigne jusqu'aux larmes? Que l'automne nous laisse désemparés par son trop plein de couleurs, de saveurs? Que l'ultime saison rompt le cercle, plongeant dans l'abîme de l'inguérissable nostalgie. Mais en toi demeure le mystère que peut-être toi-même tu ignores. En toi ce qui est perdu, ce qui est à venir. Étendre avant la pluie aux furtifs nuages, colline après l'orage aux contours pleins. Ne nous délaisse pas, toi le féminin. Hormis ton sein, quel lieu pour renaître.
Donc il faut avant tout te parler du principe féminin. Le principe féminin, bien sûr, habite prioritairement les femmes, mais le principe féminin habite l'homme aussi. Je crois que tout d'un coup, pour vous répondre, j'ai entendu dire que
muet en douceur ne survivra pas.
Voilà. Tout ce qui n'est pas muet en douceur ne survivra pas. Ça, d'ailleurs, c'est une pensée c'est une phrase qui vient de la pensée taoïste. Parce que la vision taoïste est à dominance féminine. Pour ce qui est du commencement, déjà, en tout cas pour ce qui est de la fin, parce que tout à l'heure je parle du Tao. Cette idée du Tao chez Laozi, le fondateur du taoïsme, il a aussi l'idée de la fin, c'est-à-dire le retour à l'origine. Et ce retour, c'est-à-dire, il a affirmé que point d'aller sans retour, point de commencement sans fin, point de semaille sans récolte. Et vous, alors, ce qui est capable d'engendrer a la capacité de tout reprendre. Comment tout reprendre? C'est justement, selon Laozi, c'est selon le principe féminin. C'est-à-dire tout ce qui n'est pas muet en douceur ne survivra pas. Et il n'y a que cette douceur qui est capable de tout recueillir et de tout reprendre. Donc je crois qu'il y a la fin, vous avez dit, hormis ton sein, comment c'est dit?
Hormis ton sein, quel lieu pour renaître?
Ah voilà. Hormis ton sein, quel lieu pour renaître? Ça c'est la vision taoïste de. Je crois que ça rejoint aussi du côté de l'Occident, je crois. Pascal, vous allez me confirmer ça. Est-ce que chez Jung, est-ce qu'il n'y a pas eu cette idée de... sinon, on ne va pas continuer là-dessus. Hein, c'est simplement...
je ne suis pas vraiment un spécialiste de Jung, mais oui. Ça peut-être effectivement rejoindre... Oui, chez Jung, le terme qu'il reprend du latin de l'âme, de l'anima.
Oui, c'est ça, au lieu d'anima et de animé.
Animus, oui. Et qu'on retrouve aussi chez Claudel, voilà. Oui.
Donc,
le même couple.
C'est l'anima qui régit l'animé, donc c'est le principe féminin qui régit le principe masculin. Oui. Donc, le masculin en soi, bien sûr, est une affirmation indispensable de la vie, et en même temps, il n'est pas capable de tout recueillir. Il peut viser vers l'expansion, mais il n'est pas capable de tout recueillir. Euh, Est-ce que vous vous contentez de...
Non, 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 je vais vous relancer. Non, ce qui me frappe aussi dans les personnages féminins de vos romans, c'est que ces femmes ont une sorte de capacité d'accompagner la souffrance que souvent elles subissent, sans pour autant y succomber et sans pour autant la dupliquer non plus.
Est-ce qu'ici on peut trouver secours auprès des femmes ici présentes? Je me sens un peu acculé. Hein. Est-ce qu'il y a une femme qui veut prendre la parole? Je crois que c'est quand même, on revient à cette idée d'anima et animé. Je crois que Claudel est d'accord là-dessus aussi. C'est, je veux dire, à l'état final, à l'état suprême, c'est quand même le principe féminin qui est capable de tout recueillir. Hein, c'est... En tout cas, c'est la vision de Lao Tzu, encore une fois, je le répète. Hein. Et peut-être c'est justement notre idée de... D'ailleurs, en français, puisque nous parlons de anima, donc on est obligé de parler de l'âme. Et l'âme, en français, est-ce que ce n'est pas le cas dans d'autres langues? Je ne sais pas, en allemand... Je crois qu'en allemand, l'âme est au masculin, non? Est-ce qu'il y a une présence allemande ici? Au féminin. Ah, dans ce cas, je suis à peu près sauvé. Hein. Mais en français, c'est au féminin. Hein. Le corps et l'âme. Hein. Et l'esprit et l'âme. Hein. L'esprit au masculin et l'âme est au féminin. Et pour moi, tant que je vous permettez, d'une façon générale, selon la tradition, hein, on parle du corps, de l'âme et de l'esprit. Moi-même, hein, avec audace, il ne s'agit pas d'une hiérarchie, mais... Moi, je parle du corps, de l'esprit et de l'âme. Pascal, vous qui vous référez aussi au grand Pascal, oui, c'est lui qui a établi les trois ordres. L'ordre du corps, l'ordre de l'esprit, et l'ordre de la charité, qui est l'ordre de l'âme divine. Comment chacun de nous peut répondre à l'appel de l'âme divine, c'est chacun avec sa propre âme. Comment je définis l'âme? Parce qu'à notre époque, beaucoup ne raisonne plus qu'en termes du corps et de l'esprit, hein, et en ignorant l'existence de l'âme, bien sûr pour moi c'est une amputation. Comment je définis l'âme? Donc dans mes livres, hein, surtout le dernier, l'âme donc est la marque de l'unicité de chacun. L'esprit a un caractère plus général, plus universel, je dirais, Tout à l'heure, je parle du mystère de notre langage. Notre langage relève de l'esprit. Et puis toute notre organisation de ce soir, toute l'organisation de notre société dépend de l'esprit. Et d'ailleurs, c'est ce qui permet ce soir de nous réunir ici et de utiliser ce langage commun pour communiquer nos idées. Mais l'âme, c'est la marque de l'unicité de chacun. L'esprit, il suffit que dans la minute suivante que j'ai une attaque quelconque au cerveau, mon esprit connaît la défaillance. Par contre, l'âme, c'est cette entité qui est là avec chaque être dès sa naissance. Elle reste, l'âme reste entière. Depuis sa naissance jusqu'à sa fin. Et sa fin, justement, tout son être est concentré, devient cette âme charnelle qui appartient, qui est la marque de l'unicité de chacun. Et durant toute la vie de chacun, cette âme, comme mon prédécesseur, à l'Académie, Jacques de Bourbon-Bisset, il a dit, c'est la base continue de chaque être. Hein, en ce moment même, ce qui m'anime, bien sûr, c'est mon cœur qui bat, il y a ce rythme du cœur, mais l'âme, c'est cette base continue, c'est ce chant qui ne s'est jamais interrompu depuis ma naissance jusqu'au bout, et sans doute ça résonnera plus loin, puisque comme le poète Keats a dit, la terre est une vallée où poussent les âmes. C'est-à-dire, c'est un passage obligé où chacun devient âme et qui est, je le répète, la marque de son unicité. Et c'est seulement de unicité, c'est avec cette unicité qui peut répondre à une autre unicité qui est la marque même de la transcendance. Donc, pour le moment, je livre. C'est la raison pour laquelle, comme état suprême de chacun, je suis cet ordre. Le corps, chacun est fait d'un corps, d'un esprit et d'une âme. Et pour moi, justement, je mets l'âme au niveau de chacun, à la place suprême. C'est cette âme-là, c'est avec cette âme-là qu'il est capable de répondre à l'âme divine. Je suis peut-être déjà allé trop loin dans ce développement.
Non.
Donc pour le moment, je vous laisse la place, la parole, oui. Et d'abord, dites-moi, est-ce que j'ai répondu à votre question? Pas tout à fait.
Vous savez, c'est une phrase de René Char que j'aime beaucoup. Les routes qui ne promettent pas leur destination sont les routes aimées. Donc c'est merveilleux d'être dérouté, voilà, et d'aller où nous ne pensions pas aller. Donc c'est très bien. Les réponses aux questions d'un questionnaire n'ont jamais de l'intérêt. Donc... Non corps à corps, mais âme à âme, n'annulant nullement chair et sang, n'évacuant ni source ni flamme, laissant cependant circuler l'air, la brume, la vapeur, éclair et tonnerre, bourrasque et averse, ardente déchirure. De la vallée du manque montent à présent les choses par l'azur aspirées. La lumière envahit tout l'intervalle, propageant haleine d'embrun et saveur d'algues. Le lointain et l'envol des pétales est perdu devant, et le proche, l'écho d'une louange au nid éclaté. Alors souffle le juste vide médian. Alors passe, inattendu, l'ange. Le vide médian, c'est le canal de l'âme, pourrait-on dire?
C'est très à propos, parce que le vide médian. Je viens de parler de l'âme, qui est la marque de l'unicité de chacun. Comment chacun découvre son âme? Parce que l'âme, autant l'esprit cherche à élucider, c'est le propos de l'esprit. Parce que quelque part, j'ai dit que l'esprit raisonne selon le raisonnement et l'âme raisonne selon la résonance. Donc l'esprit cherche toujours à élucider. Alors que l'âme contient cette part inconsciente qui doit rester inconsciente. Tous les psychanalystes admettent cela, y compris, vous connaissez Jean-Luc Marion, enfin le grand théologien, philosophe, et il a dit que Descartes a dit que l'âme contient cette part inconsciente et inconnue que l'homme, en réalité, ne peut jamais élucider. Alors, dans ce cas, donc c'est notre part la plus intime, la plus secrète, et qui touche justement l'indicible et l'innommé. Alors, dans ce cas, parce que vous venez de parler du vide médian, comment chacun peut découvrir son âme? On le sait, j'ai une âme, mais comment réellement prendre conscience de l'existence de son âme? Je me souviens de Claudel. Il s'était insurgé contre Socrate. Socrate dit « Connais-toi toi-même ». Claudel dit « Connais-toi toi-même ». Vous pouvez vous camper devant un miroir pendant 30 ans. Vous ne pouvez pas vous connaître. Alors comment chacun peut se connaître? C'est à travers, bien sûr, la relation avec d'autres âmes. Et pour lui, bien sûr, c'est à travers l'amour. L'amour humain aussi bien que l'amour divin. C'est à travers cette relation-là que chaque âme peut se rendre compte de cette réalité de son âme et de cette unicité, justement, de son âme. C'est-à-dire, l'unicité de chacun ne peut se prouver et s'éprouver qu'à travers d'autres unicités. Plus vous êtes unique, plus je suis unique. Si vous êtes tous pareils, je n'ai pas d'unicité. Je ne suis qu'une bête curieuse. Donc, ça touche votre idée de vide médian. C'est à travers cette relation, soit de confrontation, soit de communion, que chaque âme peut pas de gré, se rendre compte de cette richesse inépuisable qu'il découvre en lui-même. Je dis inépuisable parce que c'est bien cette âme-là qui répond à l'âme divine, laquelle, bien sûr, est inépuisable. Donc, est-ce que
Ce n'est pas moi qui ai parlé du vide médian, François, c'est vous, je vous le rappelle. Parce que...
Oui, j'essaie. Le vide médian, c'est entre deux entités de vie ce qui se passe entre. Vous voyez, et qui permet justement à chacun des êtres en présence d'advenir. Est-ce que là, je peux lire un poème dans mon recueil qui s'appelle « Âme sœur » ? Âme sœur. C'est une expression magique et en même temps instinctive, puisque tout le monde l'admet. Mon propos, c'est de trouver une âme sœur. Donc, vous admettez l'existence de ma âme sœur. On est convaincu. Hein? Et donc, c'est justement l'idée de âme sœur qui prouve que j'ai une âme. Alors là, oui, et donc j'ai écrit ce poème « Âme sœur ». Donc je viens de dire que c'est à travers une autre âme, et surtout dans l'épreuve de l'amour, qu'on peut découvrir pleinement. Sans cela, cette âme reste virtuel. Mais là, dans ce poème, j'ai eu l'occasion de lire ce poème et ça a troublé pas mal de personnes parce que je m'adresse à une âme sœur. Et en même temps, à travers le poème, on a l'impression que celui qui s'adresse à l'âme sœur est en train de s'adresser à sa propre âme. Plus il supplie âme sœur d'être aimante, d'être fidèle, plus il est en train de s'exhorter à être plus aimante et plus fidèle. Donc, là, ça intervient encore l'histoire du vide médian. Âme sœur au niveau de l'amour humain et aussi au niveau de l'amour divin. Donc, âme sœur peut être d'âme à âme au niveau humain. Ça peut être aussi âme humain qui, comme Saint Jean de la Croix, qui cherche à répondre à l'âme divine. Et dans les deux cas, c'est âme sœur. Âme sœur, entends-tu ce qui vient de l'heure, ce qui vient du cœur? l'heure de l'abandon, je relis. Âme sœur, entends-tu ce qui vient de l'heure, ce qui vient du cœur? À l'heure de l'abandon, à l'heure du crève-cœur, ce battement, depuis la naissance, déchirant les entrailles maternelles, déchirant l'écorce terrestre, ce battement qui cherche à se dire, qui cherche à se faire entendre. Entends-tu, âme sœur, ce cri d'avant-vie, plein d'une étrange nostalgie, de ce qui avait été rêvé, et comme à jamais vécu, matin de brume d'un fleuve, nuage se découvrant feuillage, midi de feu d'un pré, pierre se dévoilant pivoine, toute la terre embrasée, tout le ciel incandescent, en une seule promesse, en une seule invite, ne rate pas le divin, ne rate pas le destin. Entends-tu ce qui vient de la flamme du corps à l'heure de l'abandon, à l'heure du crève-cœur? Ce cri surgit un jour à ton insu, en toi-même, le transparent, le transportant, le transfigurant, seul cri fidèle à l'âme en attente, âme sœur. À ce point, Pascal, vous me permettez de lire un autre poème que j'ai écrit peu de jours, disons 3 jours avant ma venue ici. Puisque je parle de l'âme sœur, je me lèverai et j'irai vers toi, traversant les nuits d'insomnie, franchissant la ligne incandescente des étoiles. Je sais que tu es loin, mais que par toi, tout sera retrouvé. Je me lèverai et j'irai vers toi, enjambant l'abîme d'un pas résolu, ignorant toute distance qui sépare. Je sais que tu es proche, que je dois te chercher au plus intime de moi. J'irai vers toi, sûr de te retrouver, car je n'oublie point une scène de jadis. Après une longue fugue, je suis revenu au logis. L'ombre maternelle s'est retournée et a dit, « Te voilà. » J'ai répondu, « Me voici. » Et j'ai fondu en larmes. C'est une scène qui a eu lieu réellement dans ma vie. Et comme je parle de l'ombre maternelle, ça répond peut-être enfin à votre interrogation sur l'âme féminine.
Je crois qu'on va arrêter là. Merci François de nous avoir invités dans la maison de l'âme. Merci beaucoup.
Merci pour ce moment de partage et de communion. Merci.